Donc si vous savez ce que c'est, vous pouvez partir. Un dimanche prochain, à bientôt. En fait, ça vaut le coup de s'interroger sur qu'est-ce que c'est être chrétien. D'abord, c'est une bonne question parce que le monde peut nous poser la question. Si on dit « je suis chrétien », ça veut dire quoi ? Tu es catholique, tu vas à la messe, tu fais quoi ? Tu crois à quoi ? Tu crois quoi ? Bon, en fait, le monde nous pose rarement la question, hein, parce qu'il s'en fiche un petit peu. Mais en même temps, ça peut être intéressant de se poser la question nous-mêmes, à nous-mêmes. Parce que pour devenir chrétien, pour être chrétien, pour demeurer chrétien, il faut savoir ce que c'est. Pour beaucoup de gens, être chrétien, c'est croire au Christ. Chrétien, Christ. Et le plus souvent, de près ou de loin, faire partie d'un groupement qu'on appelle une église. C'est peut-être aussi la définition que beaucoup d'enfants de chrétiens donneraient de ce qu'est être chrétien. Peut-être en ajoutant, c'est aussi être né dans une famille chrétienne. Mais est-ce que être né dans une famille chrétienne fait de nous un chrétien ? Ça, c'est une bonne question. Comme toujours, pour répondre à une question, c'est utile de revenir à la Bible pour éclairer notre réponse. Et c'est ce que je vous propose rapidement ce matin. Alors d'abord, ce serait intéressant de savoir d'où vient ce nom de chrétien. Parce que c'est ce qui nous définit, c'est un mot qu'on a beaucoup dans la bouche, c'est un mot, qu'est-ce que tu es, quelle est ta religion, le mot chrétien ressort très très souvent dans notre langage quotidien. Donc c'est un mot qui revêt une importance majeure, et c'est important de savoir d'où il vient, et notamment dans le Nouveau Testament. D'abord, est-ce que vous savez combien de fois ce mot chrétien est dans la Bible, dans le Nouveau Testament ? Très peu, très très peu, trois fois. Les chrétiens eux-mêmes ne se définissaient pas comme chrétiens. C'est assez étonnant. Alors que pour nous, c'est une évidence. Le premier verset où on trouve ce nom de chrétien, c'est dans les Actes, au chapitre 11, au verset 26. Il nous est dit que pendant toute une année, Barnabas et Saul se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc ce n'est pas à Jérusalem, c'est à Antioche qu'on va appeler pour la première fois les suiveurs de Jésus, j'allais dire des chrétiens. La plupart des commentateurs pensent que ce sont en fait les non-croyants qui ont appelé les chrétiens des chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes qui se sont définis comme chrétiens. Et c'était probablement un peu un sobriquet. Comme nous on dirait les marxistes, les mélenchoniens, les lepénistes, les je sais pas quoi, enfin ça c'est plutôt dans le domaine de la politique, mais voilà, vous voyez, c'est-à-dire puisqu'ils parlent tout le temps de quelqu'un qu'on appelle en grec le Christ, eh bien on va les appeler les chrétiens, et souvent c'était dans les périodes de persécution et en tout cas de dénigrement. La deuxième fois que c'est noté dans les Actes, là encore c'est un non-croyant qui emploie le nom de chrétien, c'est Agrippa. Agrippa, c'était un juif complètement romanisé, et devant lequel comparait Paul. Et en Actes 26-28, il nous est dit que Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader d'être chrétien. » Et là encore, c'est plutôt sur le ton ironique, en disant, « Paul, bon, tu continues, si ça continue, je vais devenir chrétien. » Et Paul dit, « Ben, gloire à Dieu, oui. » C'est important. Et puis enfin, la troisième fois où ce nom étant employé, c'est Pierre qui, dans sa première lettre, l'emploie. Mais là encore, c'est en lien avec les non-croyants. Et ce n'est plus dans l'ironie, mais c'est pire. C'est par rapport et en rapport avec la persécution. 1 Pierre 4,16, Pierre nous dit, « Mais si quelqu'un souffre, comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. » Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que le mot chrétien est très peu employé dans la Bible et qu'il l'est toujours en rapport avec les non-croyants, voire avec la persécution ou le dénigrement. Alors après ce petit retour historique, on peut tout de même se poser la question, comment, si les chrétiens ne s'appelaient pas des chrétiens, comment s'appelaient les croyants en Jésus dans le Nouveau Testament ? Alors il y a plusieurs termes qui sont largement employés puis qui vont nous aider à comprendre ce que c'est qu'un chrétien. Le premier mot qui ressort, la première façon dont les chrétiens eux-mêmes se définissent, on le retrouve une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament, et c'est le terme « la voix ». La voix, V-O-I-E, pas la voix V-O-I-X, donc la voix, le chemin. Le verset le plus explicite que j'ai choisi à ce sujet dans les Actes, c'est dans Actes 24, 14. C'est Paul qui dit « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voix, donc la voix, qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. » Alors, le terme secte, là, n'est pas un terme forcément dénigrant ou ça ne revêt pas forcément le terme, le côté négatif qu'il a aujourd'hui. En fait, dans le judaïsme, il y avait des sectes. On le sait, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, etc. Et il y avait une nouvelle secte qui était apparue au sein du judaïsme. C'était ce qu'on a appelé le christianisme. Mais Paul le définit comme étant la voie de servir Dieu, le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Donc c'est la voie, c'est un chemin. En fait, c'est intéressant parce que si on retraduit, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec, si vous le retraduisez en hébreu, qui était la culture du contexte hébraïque de l'époque, ça donne le terme, la voie, ça donne le terme halakha. Alors ça ne vous parle pas beaucoup sûrement, mais la halakha, c'est olech, c'est marcher en fait. Et donc la halakha, c'était la façon de marcher, c'était la voie dans laquelle on s'engageait, la façon de se comporter, la façon de faire les choses, la façon de pratiquer son culte. C'est d'ailleurs encore le terme employé aujourd'hui dans le judaïsme pour savoir quelles sont les règles pour servir le Dieu des patriarches, le Dieu des pères, comme le dit Paul. Donc ce premier terme, la voie, définit les croyants en Jésus en fait comme étant des gens qui ont une éthique, une morale, une ligne de conduite, une façon de vivre et une façon de pratiquer particulière le culte. Si je veux résumer cette approche de la vie qu'on appelle maintenant la vie chrétienne, je dirais qu'elle se résume par deux phrases selon la voie, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. C'est très pratico-pratique. Cette approche était très importante dans le début du christianisme. C'est pour ça que c'est un des premiers termes employés. La façon de faire, la voie. Il fallait définir et expliquer comment on vivait cette croyance qui était ancienne, car enracinée dans le judaïsme, mais en même temps nouvelle, parce qu'elle apportait une approche renouvelée suite à l'apparition du Messie. On retrouve cette approche de façon très importante dans le premier texte authentique qui est bien connu, qui est post-apostolique, donc ce n'est pas le Nouveau Testament, mais c'est un des premiers textes d'après le Nouveau Testament. Ça s'appelle la Didaché, la Didaké. Je ne sais pas si quelques-uns connaissent, ont déjà lu. Levez la main. 3, 4. Ouais. Ben, je vous encourage à aller sur Internet, à aller lire la Didaké. La Didaché, c'est intéressant. Ce n'est pas la Bible. Hein. La Didaché, elle ne s'occupe pratiquement pas ni de foi, ni de théologie. C'est étonnant, juste après le Nouveau Testament, ça parle pratiquement pas de foi, ni de théologie, mais presque exclusivement de la façon de faire les choses, donc de la voie, du chemin à suivre. D'ailleurs, les premiers mots de la Didaché sont « Il y a deux voies. L'une, c'est la voie de la vie. » L'autre, c'est la voie de la mort. C'est l'introduction. Et ensuite, elle explique pendant plusieurs pages tout un tas de choses. Comment il faut pratiquer le repas du Seigneur, la Sainte Cène. comment il faut faire pour être baptisé. Le baptiseur et le baptisé doivent jeûner, etc. Il y a tous les processus sont décrits. Comment on doit se réunir? Qu'est-ce qu'on fait quand on se réunit? Comment on doit recevoir un ministère itinérant, un prophète qui passe? Est-ce que c'est un vrai prophète, un faux prophète? S'il reste plus de 24 heures, c'est pas un vrai prophète. Etc. Il y a tout un tas. C'est vraiment le comment. C'est vraiment enraciné dans cette notion de la voix. Donc ce premier terme de la voix est donc majeur dans les débuts du christianisme. Mais si on ne considère que ce terme pour définir un chrétien, on risque de ne voir le christianisme que comme une religion du comportement, du faire. Et chrétien, celui qui se comporte comme un chrétien. Et chrétien, celui qui se comporte comme un chrétien. Or, c'est une erreur. C'est une erreur. On peut dire aussi qu'en revanche, un chrétien qui ne se comporte pas globalement et malgré ses faiblesses comme un chrétien, c'est aussi problématique. Hein. Donc il y a une autre façon de définir ça, c'est une façon, ça fait partie de l'identité du chrétien, de faire et de faire différemment. Mais il y a un deuxième terme dans le Nouveau Testament par lequel les chrétiens eux-mêmes vont s'appeler entre eux, et qui présente donc les premiers chrétiens, c'est tout simplement le terme de croyant. Sous-entendu, croyant en Dieu dans la voie du Messie. Oui, le chrétien, c'est aussi, moi j'aurais dit même d'abord, quelqu'un qui croit tout ce qu'enseignent les Écritures. On est sans doute plus à l'aise, nous, protestants, salut par la foi, avec cette notion de croyance plutôt qu'avec cette notion de pratique qui est plutôt réservée aussi à d'autres traditions, en tout cas l'emphase qui en est mise. Et donc la foi. Dans Galates 3, 9, Paul nous dit que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est joli cette phrase, j'avais jamais remarqué que Abraham était défini là le croyant. Donc le Nouveau Testament nous parle beaucoup des croyants, des chrétiens, des croyants juifs avant, bien sûr. J'ai choisi un autre verset dans Romains 10:10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors pourquoi j'ai choisi ce deuxième texte qui met en lien, et justement parce que ce deuxième texte met en lien la foi et la bouche et la parole. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, donc à être sauvé, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, donc on accomplit pleinement ce salut. Ce texte présente la foi du cœur donc comme quelque chose qui nous justifie devant Dieu, mais la met directement en lien avec la bouche, avec le parler, avec l'expression verbale. C'est en croyant et en déclarant de la bouche que l'on est sauvé. Le Nouveau Testament nous dit que la foi vient de ce qu'on entend la parole prêchée. Donc la foi et la parole sont très très liées. C'est le deuxième point. Le chrétien, c'est celui qui croit, et parce qu'il croit, il parle. C'est particulièrement vrai chez les nouveaux convertis. Je ne sais pas comment vous étiez au début de votre conversion, mais souvent les nouveaux convertis, ils parlent à tout le monde. Hein, ils croiseraient un poteau dans la rue, qu'il lui parlerait de Jésus. Moi, j'étais un peu comme ça quand je me suis converti à 18 ans. Je suis rentré en fac. Et j'avais de cesse de parler de Jésus à tout le monde. Ma foi nouvelle, ma foi renouvelée avait bouleversé ma vie et je parlais sans arrêt. Donc j'étais en fac, donc sur toutes mes chemises, il y avait un autocollant pour que tous mes voisins de fac dans l'amphi le voient. Alors il y avait Jésus t'aime, lis la Bible, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, etc. Et puis une petite anecdote pour dire que la foi, quand elle est là, C'est pas une simple croyance, elle déborde et elle nous pousse à parler. Elle est liée, la bouche sort. Et un jour, il y avait un prof qui nous prévient, il était en retard et on avait 20 minutes d'attente. Donc on était tous dans l'amphi. Et puis on était là à attendre tout ça. Puis dans mon cœur, ça bouillonnait. Il faut que tu fasses quelque chose là. Faut que tu passes. Et puis je me disais, non, tu vas pas faire ça. Non, tu vas pas le faire. Si, tu vas le faire. Et puis alors je me lève, je descends en bas, c'est des amphis. Et au tableau, j'écris un grand Jésus t'aime. Et puis je vais me rasseoir. Alors il y en a beaucoup qui ont rigolé, qui ont fait des cocottes en papier, des avions. Des... Mais il y a deux filles qui sont venues me voir à la fin du cours, puis qui m'ont dit, pourquoi tu as fait ça? C'était une catholique, une protestante d'origine. Et puis on a commencé à parler, partager, et puis une des deux s'est convertie, on l'a baptisée, etc. Elle a marché avec Dieu. C'est fou. La foi et la parole sont liées. Donc ça, c'est aussi une bonne façon de définir le chrétien. N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu parles? C'est un des signes de la foi. Est-ce que tu parles? Malheureusement, avec le temps, je ne ferai plus des folies comme ça. Enfin, ça m'arrive de faire des folies, mais ça, je ne sais pas si je serai encore... Non pas que j'ai plus la foi, mais c'est vrai que bon, voilà, ça nous interpelle et c'est tellement beau, la foi du nouveau croyant. Il y a une autre façon, on va la trouver aussi dans la Bible. On a vu la voix, on a vu la foi, liée aussi à la parole. Et il y a un troisième terme qui décrit ce qu'est un chrétien selon la Bible. Jésus va dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jean 3:3. Et de la même façon, Paul va dire dans Romains 8:6, l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La nouvelle naissance, être enfant de Dieu. Il est donc question là d'une naissance nouvelle. Souvenez de l'épisode avec « Mais je suis vieux, comment je rentre dans le ventre de ma mère pour en ressortir ?» Jésus dit « Non, t'as rien compris. Cette nouvelle naissance, c'est une naissance d'en haut. C'est la naissance par le Saint-Esprit. » Selon l'enseignement de Jésus et selon l'enseignement des apôtres, on ne se fait pas chrétien soi-même. Quelque part, on ne décide pas d'être chrétien. C'est Dieu lui-même qui fait de nous un chrétien par une action surnaturelle. Le Dieu du ciel qui vient nous visiter. C'est incroyable. L'œuvre de son esprit dans le croyant. Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle qui fait de nous des enfants de Dieu. Notre nature change. Des enfants adoptifs et des frères du Messie. C'est cette nouvelle naissance qui nous enracine dans la famille de Dieu, l'Église dont on a parlé tout à l'heure. C'est cette nouvelle naissance qui nous greffe sur l'olivier d'Israël, contrairement à notre nature. C'est elle qui nous permet d'avoir une vie de prière et de communion avec Dieu. On a eu des beaux temps de communion avec Dieu ce matin dans la louange. Si ça a résonné dans nos cœurs et si on a pu être en communion les uns avec les autres et avec Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il est là, bien vivant. Vivre et expérimenter la nouvelle naissance, c'est super. Si on pourrait passer des heures, je pense chacun, à raconter notre nouvelle naissance. Le jour où le Saint-Esprit nous est tombé, le ciel nous est tombé sur la tête. Moi, je me souviens, c'était le 5 octobre 1978, vers 23h. J'avais 18 ans. J'étais allé deux fois à une église évangélique. Je cherchais Dieu, ou plutôt c'est lui qui me cherchait. Je vais un soir et puis je dis, mais comment on fait pour avoir ce que vous avez? Et donc le frère m'explique. Et puis il me dit, tu veux qu'on prie ensemble? Je dis, non. J'avais trop peur. Je dis, mais je peux le faire chez moi? Oui, tu peux le faire chez toi. Alors je rentre de la réunion, c'est pour ça que c'était vers les 23h. Je me mets à genoux au pied de mon lit, je fais ce qu'on m'a dit. Seigneur Jésus, je crois, enfin bon, voilà. Et puis j'ai ma première vision, et une douche du Saint-Esprit qui me tombe dessus. Sur ce, je me couche. Voilà, pas plus. Le lendemain, je me lève, je vais prendre mon petit déjeuner. Je prends mon café au lait comme tous les matins, les casse-croûtes BN comme on faisait à Reims. Et puis ma mère qui n'arrête pas de me regarder, qui me regarde, qui me dévisage. Alors je me dis, mais qu'est-ce que j'ai, un bouton sur... Et au bout d'un moment, je dis, mais pourquoi tu me regardes, maman? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et elle me dit, écoute, Joël, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu n'es plus le même. Elle n'était pas chrétienne, hein, enfin, catholique, mais... La nouvelle naissance, c'est un changement. Même un non-croyant, non-pratiquant, disons plutôt, voit le changement. Sans parole, là. Parce que la nouvelle naissance a fait son effet. Alléluia. À cet instant, la nouvelle naissance, c'est le ciel qui touche la terre. C'est la vie qui engloutit la mort. C'est la sainteté qui détruit la tâche du péché. Ce que la personne aimait avant, elle le hait maintenant. Et ce qu'elle haïssait avant, elle l'aime éperdument maintenant. Mais le souci avec cette conception, cette notion de la nouvelle naissance, c'est qu'elle n'est pas toujours aussi évidente que ce que je viens de décrire. C'est vrai, par exemple, pour beaucoup d'enfants de chrétiens qui sont incapables de dire exactement quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau. Sauf peut-être ceux qui sont, comme on dit, retournés dans le monde, un peu comme le fils prodigue, et puis qui reviennent, qui vivent une repentance et une onction nouvelle, etc. Mais encore, beaucoup de ceux-là étaient déjà nés de nouveau. C'est juste qu'ils n'ont pas gardé leur dignité pour un temps, en attendant de revenir. Donc leur filiation existait déjà. Alors comment savoir dans ces cas-là si vraiment on est né de nouveau ou pas? Moi je crois qu'il y a deux points importants. C'est les deux points dont on a déjà parlé tout à l'heure. Celle de la foi, du témoignage et du comportement. Si ta foi, ton comportement de chrétien résiste au temps, c'est pas parce que tu es un costaud et tu es plus fort que les autres, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi et qu'il agit. Et puis, comme dit Paul, il y a bien sûr le témoignage intérieur, et je dirais même décisif, du Saint-Esprit, qui nous conduit à crier, et à crier en hébreu, « Abba !» C'est déjà un mot que vous connaissez. Il y a aussi « Amen » et « Alléluia hein, » que vous connaissez. Oui, ce n'est pas compliqué l'hébreu. « Abba !» Ça veut dire... Ça ne veut pas dire « Père », ça veut dire « Papa ».« Abba », c'est « Av ». Abba, papa. Les trois points que je viens de décrire, la voix, la foi, la nouvelle naissance, sont donc hyper importants pour comprendre ce que nous sommes comme chrétiens. Mais il reste un mot indispensable à explorer. Et si je le garde en dernier, c'est parce que pour moi, c'est presque le plus essentiel pour nous qui sommes chrétiens de longue date ou pour bien comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. C'est un mot qui se trouve partout dans les évangiles. Un mot qui exprime de façon décisive ce qu'est un chrétien. Et ce mot, c'est disciple. Disciple. Sur le mur de notre salle, il y a ce verset des évangiles qui sont écrits en grosses lettres noires sur fond blanc. Et ce verset dit « Toi, suis-moi ». Et quand on l'a peint avec Pierre, c'était notre désir que tous ceux qui entrent ici puissent un jour ou l'autre, non pas simplement lire une jolie phrase, mais sentir comme le doigt de Jésus qui dit « Toi, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Voilà, en trois petits mots en français, « Toi, suis-moi », toute la vie, toute la nature, toute la vocation et toute l'aventure du chrétien qui sont exprimés. Et je crois que c'est capital de revenir à ce basique. Un chrétien, c'est avant tout un disciple du Messie. Il va suivre cet homme, Jésus de Nazareth. Non pas sur les routes de Judée, de Galilée, de Samarie, comme tous les premiers disciples, mais dans le quotidien de sa vie. Toute la tradition juive et la tradition chrétienne, c'est l'histoire d'un disciple qui suit un maître. Jésus est notre maître, notre rabbi, notre chef, notre Seigneur. Tous ces mots sont synonymes dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Et nous sommes ses disciples, ses apprentis, ses serviteurs, ses élèves. Tout ça aussi, c'est synonyme. Toute l'histoire de la vie chrétienne, c'est celle de notre attachement à un homme, d'un homme, d'une femme, à celui qui est le juste, avec un J majuscule en français. Celui qui est le oin, c'est-à-dire le Messie, celui qui a l'onction particulière du Père. Celui que Dieu a choisi pour être le sauveur du monde, alors qu'il est caché sous l'aspect d'un simple homme. Et nous sommes des disciples, nous avons un rabbi, nous avons un maître, nous avons un seigneur, et on le suit. Lorsque Jésus appelle quelqu'un, il lui dit, « Toi, lève-toi, suis-moi. » Et je suis sûr que si vous êtes au Seigneur, quelque part, d'une façon ou d'une autre, vous avez senti un jour, vous avez entendu un jour cet appel particulier qui a résonné dans votre cœur. Un appel pressant, un appel bouleversant. Il n'y a pas d'autre voie. Quand on entend cet appel du Seigneur, avec cette grâce souveraine qui nous touche, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie que de dire « Oui, Seigneur ». Un moment unique dans ta vie et qui a fait que, comme si tu te trouvais directement face à face avec Jésus. Un peu à l'exemple de Matthieu, vous savez, Jésus se promène, il y a Matthieu Lévi, Lévi-Matthieu, qui est au bureau des péages. Jésus s'approche, il regarde dans les yeux et lui dit « Toi, suis-moi ». Et il nous est dit que Matthieu laisse tout. Il laisse tout et il s'en va, il le suit. Notre vie de disciple, je crois que c'est ça. À un moment ou un autre, ou à plusieurs moments dans notre vie, le Seigneur nous dit « Maintenant tu me suis, maintenant tu lâches, maintenant tu quittes, maintenant tu arrêtes, maintenant tu donnes. » Et comme Matthieu, eh bien on a dit oui, amen. Alors des fois on résiste un peu, hein, je pense. Mais tout quitter et le suivre. Les premiers disciples du Seigneur savaient ce que ça coûtait. Ouais, on en a parlé, des persécutions, et tous les apôtres sont morts, non pas de vieillesse, mais parce qu'à cause du témoignage de Jésus. Et tout quitter, ça peut vouloir dire même quitter sa vie sans renier le Seigneur. Mais avant ça, il y a bien d'autres choses qu'on quitte. Et le Seigneur nous appelle à changer de voie. Comme son nom l'indique, la marche avec Dieu, c'est d'abord une marche, une dynamique, un mouvement pour suivre celui qui s'est appelé lui-même le chemin. Celui qui est la voie et qui nous conduit au but. Quel est le but de ce chemin? La communion avec le Père. Être un avec lui, avec son Père. Car en suivant le Maître, on ne peut que arriver au Père. Alors je voulais relever ce matin, pour finir, quelques traits caractéristiques du disciple qui suit son Maître. Une rapide et courte sorte de checklist pour vérifier si en tant que chrétien, nous restons bien dans la dynamique de disciple. C'est la rentrée, et la rentrée, on fait plein de... Hein, il y a le 1er de l'an, puis il y a le 1er septembre, hein, les bonnes résolutions, les choix. Alors ça y est, je me remets au sport, alors ça y est, je vais faire ci, je vais faire ça, je redémarre. Donc c'est important de faire le point comme ça en fin d'été pour se dire, bon voilà, on s'est reposé, on s'est détendu, même si on a eu un été super chargé. Voilà, une nouvelle année scolaire s'ouvre, une nouvelle année académique, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais vivre? Le premier point, je viens de le signaler, c'est la notion d'être en mouvement. Rester statique dans sa vie chrétienne, ce n'est pas un signe de bonne santé spirituelle. Car notre maître, lui, est sans cesse en mouvement. Jésus avait la bougeotte, hein. circuler de Galilée en Samarie, puis plus bas en Judée, puis remonter. Quand on marche en Israël, d'ailleurs, oui, une parenthèse, je pense organiser un voyage en Israël à l'automne 2024. Ça devient sérieux, je commence à le prononcer de ma bouche, donc je crois que ça va se créer. Donc automne 2024, si ça vous intéresse, commencez à économiser. Voilà, on risque d'aller... Mais c'est intéressant d'aller voir justement tout ce qu'il faisait à pied. Jésus avait la bougeotte de ville en ville, de village en village, sans arrêt. Il marchait. Et sa nature n'a pas changé, sa nature de maître n'a pas changé. Jésus est en mouvement, le Saint-Esprit est en mouvement. Et notre vie spirituelle doit être en mouvement. Parce que si il est notre maître et s'il est sans cesse en mouvement, alors nous sommes appelés à le suivre. Il nous faut changer, il nous faut évoluer, il nous faut vivre des expériences nouvelles avec Dieu. J'ai mis sur mon petit papier en noir, halte à la routine dans notre vie chrétienne. Si on est dans la routine, il y a quelque chose à changer. C'est qu'on a laissé Jésus se distancer. On s'est endormi et lui, il est parti, même la nuit. Même la nuit, ils étaient obligés de le chercher. Peut-être c'est le moment de chercher Jésus, dire « Mais Jésus, où tu es ? Tu m'as distancé là, tu m'as perdu de vue vite, il faut que je te rattrape. » Le deuxième point, c'est l'apprentissage. C'est la définition même du terme « disciple ». Le meilleur synonyme du terme, du mot disciple, en hébreu, c'est Talmid. Talmid, ça ressemble à Talmud, hein, Talmud, donc l'enseignement. Talmid, le mot disciple, ça veut dire élève. Nous sommes des élèves du Seigneur. Nous sommes des apprentis. Et comme tout apprentissage, il revêt deux dimensions. Dans l'apprentissage, il y a deux choses souvent. Il y a la théorie, il y a l'enseignement et il y a la pratique. Être à l'écoute de l'enseignement de Jésus dans les Écritures. Et là, il y a une dimension intellectuelle nécessaire. Alors, c'est peut-être un gros mot qui fait peur parfois, mais simplement le fait de lire la Bible, ça fait travailler notre intellect. Donc, c'est déjà du travail. Et puis, étudier. Pierre a parlé tout à l'heure de l'académie. C'est super. Il y a l'Institut de théologie réformée évangélique, réformée charismatique, qui se crée là, qui vient de se créer, qui fait sa première rentrée cette année au sein de notre famille d'église, pour vraiment apprendre là au niveau académique les choses. Alors cette année, je me suis lancé un défi, je me suis inscrit au cours de grec. Voilà, donc dans le mois qui vient, je vais démarrer le grec, j'ai jamais fait de grec de ma vie. Donc je ne sais pas si ma mémoire sera encore solide, mais... Alléluia, ça va être super. Lançons-nous des défis pour apprendre, parce qu'on a soif de Dieu. Et soif de Dieu, c'est vrai que c'est avoir soif de Dieu dans sa présence, j'allais dire dans la prière, dans l'adoration, mais c'est soif de mieux le connaître, c'est soif de mieux connaître sa parole, parce que c'est le meilleur moyen de le connaître. Donc je vous encourage, pas forcément à faire du grec, mais... Lancez-vous un défi, ça peut être, pourquoi pas, si tu es hésitant, ça peut être l'académie, ça peut être d'autres choses. Il y a un cours sur l'épître aux Romains qui démarre aussi là en septembre à l'ITRC, avec Nathan Lambert. Je pense que ça va être passionnant. Et c'est en ligne et c'est pas cher. Je ne sais plus où j'en suis dans mon petit papier. Et étudier, donc, c'est vraiment important. Jésus va dire... va reprendre souvent les gens. J'ai choisi deux phrases, mais il y en a plusieurs qui ressortent régulièrement. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit ? Quand des gens, des disciples ou des non-croyants s'interrogent, Jésus va dire, mais vous n'avez pas vu que c'est écrit ? Et non, ils avaient piscine le jour où il y avait enseignement. Donc ils n'avaient pas lu, ou ils avaient oublié. À d'autres, il va dire, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors, ce n'est pas les écouter avec les oreilles, mais avec la Torah. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Et puis, l'autre dimension dans l'apprentissage, c'est la pratique. C'est celle de faire. C'est celle du serviteur. Parce que le mot serviteur aussi, on peut le considérer comme assez synonyme de disciple. Parce que les disciples servaient Jésus pendant qu'ils étaient en apprentissage. Jésus va parfois demander à ses suiveurs de guérir des malades. Puis parfois, il va leur demander d'aller détacher un ânon chez quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, d'apprêter une salle, de faire le ménage dans une salle, une chambre haute, de tout préparer, d'allumer les bougies. C'est ça être disciple ? Ben ouais, c'est ça. Parfois tu vas guérir les malades et puis parfois tu vas faire le ménage à l'église. Mais c'est la pratique de notre discipulat, de notre apprentissage. Je me souviens que la première fois, quand j'ai quitté mes études pour rentrer à plein temps pour le Seigneur, quand j'avais 20 ans, j'étais assez enthousiaste. Je quittais ma famille, je quittais mes parents à leur grande âme pour rentrer dans une communauté chrétienne, et donc une vraie communauté de vie. Et la première chose qu'on m'a demandé, je me disais, je vais évangéliser le monde entier, moi, avec la foi que j'avais depuis moins de 2 ans. Et la première chose qu'on m'a demandé, c'est de gratter un mur extérieur crépi qui était un peu poussiéreux. Bon, c'était à Reims, mais quand même, c'était en plein été au sud, je crevais de chaud, et je me disais, mais t'es sûr que t'as fait le bon choix, avec une brosse métallique. Mais c'est comme ça que j'ai appris le service, c'est que nous tous, je donne des expériences parce que c'est moi qui parle, mais je suis sûr que tous, vous avez des expériences comme ça, vous vous êtes dit, mais j'avais pas payé pour ça, moi. Eh bien si, c'est important. Dans le royaume, celui qui fait le ménage a autant de valeur que celui qui prêche. Et celui qui prêche aux enfants, je dirais, a plus de valeur que celui qui prêche aux adultes, même. C'est pour ça d'ailleurs que je suis moniteur des collettes maintenant. Et le troisième et dernier point, non, il y en a deux encore, mais très rapide. Le troisième point, c'est l'identification. Un disciple est appelé à devenir conforme à son guide, à lui ressembler de plus en plus. Tel il est, tel nous sommes dans le monde, il est écrit. Il a dit, je suis la lumière du monde. Ah ouais, Jésus, la lumière du monde. Oui, mais il a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Donc nous sommes appelés à lui ressembler. Et puis le dernier point, c'est bien sûr celui de la relation, de la communion. On ne peut pas suivre un maître si on ne le connaît pas. Ça ne se fait pas par Internet. Il y a peut-être des gens qui suivent des gourous par Internet, c'est possible, hein, mais il faut connaître personnellement, avoir une relation personnelle avec ce maître. Le disciple connaît personnellement son maître et le disciple a besoin d'approfondir la connaissance de son maître. Et notre maître, c'est le Seigneur Jésus qui nous conduit au Père. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle sans cesse des choses que l'on connaît parfois, qu'on a oubliées ou qu'on n'a pas réalisées. Et Seigneur, je te prie que dans cette période de fin d'été, de nouveauté qui va redémarrer avec le week-end de rentrée, fin septembre, avec cette nouvelle année académique qui commence, bien, je te prie de renouveler en nous tous ces critères qui font de nous des chrétiens. Seigneur, réveille-nous là où on a besoin d'être réveillé. Encourage-nous là où on a besoin d'être encouragé. Relève-nous là où on a besoin d'être relevé pour que nous soyons des disciples dignes de leur maître. Je te le demande pour chacun de nous au nom de Jésus. Travaille, Saint-Esprit, nos cœurs. Rappelle-nous. Et puis si quelqu'un n'est pas encore au Seigneur, s'il y a un enfant de chrétien ou un visiteur qui n'est pas encore au Seigneur ce matin, ben je te prie, Seigneur, de montrer que ce n'est pas parce qu'on est d'éducation chrétienne que l'on est chrétien, mais qu'on a besoin d'entrer dans la voie, d'entrer dans la foi, d'entrer dans la nouvelle naissance, de recevoir cette nouvelle naissance et de vivre cette vie de disciple. Merci, Père, parce que ton esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.